17h en temps universel, ravi de vous retrouver pour vous présenter le monde aujourd'hui en direct de Washington. Merci pour votre fidélité au micro, Nanit Salani. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, Mauritanie, Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani, investi pour un second mandat, promet une bataille acharnée contre la corruption. Au Togo, victoire Sidiméo Togbéa. Togbé reprend son poste de Premier ministre après une courte vacance. États-Unis, Kamala Harris sera officiellement désignée candidate démocrate à la présidentielle. Israël, dans le collimateur des alliés de l'Iran, qui menace de réagir après les assassinats de leaders du Hamas et du Hezbollah. Échange de prisonniers entre la Russie et les Occidentaux. 26 ressortissants échangés grâce à la médiation turque. La bataille pour la Maison-Blanche, Scott Stearns examine les dynamiques de la course entre Trump et Harris. En sport, JO de Paris, les stars de l'athlétisme lancent les compétitions avec des espoirs élevés pour l'Afrique et des moments forts en vue. Restez à l'écoute pour le développement de ces titres, mais d'abord le journal. Le président mauritanien Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani a prêté serment hier pour un second mandat de 5 ans. Il a promis une lutte sans merci contre la mauvaise gestion et la corruption lors d'une cérémonie à Nouakchott en présence de plusieurs délégations étrangères. Les détails avec Lionel Gaïma.
Cette lutte contre la corruption sera notre responsabilité à tous, l'administration, la justice, la société civile et la presse. C'est une bataille qui commence par vaincre les résistances qui vont s'y opposer, a déclaré M. Ghazouani au palais El Mourabitoun. Il a remercié les Mauritaniens de l'avoir réélu et a réaffirmé son engagement à faire tout pour se hisser au niveau de leurs attentes et réaliser leurs espoirs dans son discours d'investiture en présence de 6 chefs d'État africains. Le Maroc et l'Algérie étaient représentés par leurs chefs de gouvernement. Le président Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani a remporté dès le premier tour la présidentielle du 30 juin, loin devant l'opposant historique Biram Dah Abeid et le candidat islamiste Amadi Oul Sidi El Mokhtar. Monsieur Ghazouani, militaire de carrière de 67 ans, déjà élu dès le premier tour en 2019, va diriger 5 années de plus ce pays désertique à la charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne.
Au Togo, victoire Sidiméo Tomega Togbé, qui a démissionné de son poste de Premier ministre fin mai, a été reconduite à la tête du gouvernement par le président fort Niasingbé. Le point avec Alexandrine Holognon.
Le communiqué de la présidence togolaise précise qu'un gouvernement sera nommé dans les jours à venir. Première femme à diriger un gouvernement dans ce pays, Victoire Sidiméo Tomega Togbé, 64 ans, avait présenté sa démission au président Faure Gnassingbé au lendemain des élections législatives et régionales, comme le veut la tradition au Togo. Le poste de Premier ministre est resté vacant pendant plusieurs semaines après sa décision, acceptée par le président togolais. Cette nouvelle nomination intervient à un moment important, alors que le Togo a adopté le 19 avril une nouvelle constitution qui bascule le pays dans un régime parlementaire. La nouvelle constitution abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. L'opposition y voit un moyen pour le chef de l'État de se maintenir indéfiniment à la tête du pays.
Les séparatistes du nord du Mali affirment avoir fait des dizaines de victimes tuées ou blessées dans les rangs du groupe paramilitaire russe Wagner et des forces armées maliennes fin juillet lors d'affrontements d'une ampleur inédite. Les séparatistes, une alliance de groupes armés à dominante Touareg, CSP-DPA, disent aussi avoir fait 7 prisonniers de l'ensemble Wagner-Famas et perdu 9 hommes de leur côté. Ils ajoutent avoir récupéré beaucoup de matériel de l'ennemi. Ni le Mali ni Wagner n'ont indiqué le nombre de soldats qu'ils ont perdus dans les affrontements, bien que dans une rare déclaration le 29 juillet, Wagner ait déclaré avoir subi de lourdes pertes. Les autorités de Bamako ont également reconnu avoir subi des pertes au cours de la bataille, sans donner de chiffres. Au Nigeria, les forces de sécurité ont tiré des coups de feu en l'air et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations. Les États locaux ont imposé des couvre-feux alors que des milliers de personnes se sont jointes à des rassemblements à travers le pays pour protester contre le coût de la vie. baptisé End Bad Governance in Nigeria, mettait un terme à la mauvaise gouvernance au Nigeria. Le mouvement de protestation a été soutenu par une campagne en ligne, mais les autorités ont mis en garde contre les tentatives de reproduire les récentes manifestations violentes au Kenya où les protestataires ont forcé le gouvernement à abandonner de nouvelles taxes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Kamala Harris va être formellement désignée comme la candidate démocrate à la présidentielle de novembre face à Donald Trump à l'issue d'un processus en ligne qui a débuté hier jeudi. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Plusieurs milliers de délégués du Parti démocrate ont commencé à voter dans la matinée pour choisir la vice-présidente comme candidate à la présidentielle de novembre. L'issue de cette procédure ne fait pas le moindre doute. L'ancienne sénatrice de Californie est seule dans la course. Le vote doit se terminer lundi en fin de journée. En général, l'investiture officielle du candidat a lieu en personne lors de la grande convention du parti prévue cette année à Chicago du 19 au 22 août. Les démocrates ont décidé d'anticiper ce vote en ligne, une procédure rarement utilisée. Cependant, Kamala Harris a une autre étape importante à franchir. Ce sera le choix de son colistier. À moins de 100 jours de la présidentielle américaine, le candidat Donald Trump a accentué ses attaques, allant jusqu'à l'accuser de se définir comme noir par calcul politique. Née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, Kamala Harris est la première personne noire et d'origine asiatique à avoir accédé à la vice-présidence des États-Unis.
La Russie et les Occidentaux ont échangé hier avec l'aide de la Turquie 26 de leurs ressortissants, dont le journaliste américain Evan Gershkovitch, soit le plus vaste échange de prisonniers depuis la fin de la guerre froide, d'après Washington. Les détails avec John Lindon.
Outre le reporter du Wall Street Journal, détenu depuis mars 2023, figure également l'ex-marine Paul Whelan, emprisonné pour espionnage en Russie depuis fin 2018. Les services de renseignement turcs ont mené à Ankara l'opération d'échange de prisonniers la plus importante de ces derniers temps, a indiqué la présidence turque, précisant qu'elle concernait 26 personnes provenant des prisons de 7 pays différents, notamment les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie, la Norvège, la Russie et la Biélorussie. Depuis la guerre froide, il n'y a jamais eu un nombre aussi important de personnes échangées de cette manière, s'est félicité Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Et il n'y a jamais eu, à notre connaissance, d'échange impliquant autant de pays. La Maison-Blanche a salué un échange de prisonniers historique et le président américain Joe Biden une prouesse diplomatique. Un échange, l'agent russe présumé Vadim Krasikov a été remis à la Russie selon la présidence turque. Il était emprisonné en Allemagne pour l'assassinat d'un ex-commandant séparatiste tchétchène à Berlin.
À propos de cet échange de prisonniers, le gouvernement allemand doit affronter de premières critiques après avoir accepté de libérer un agent présumé du FSB condamné pour meurtre afin d'aider les États-Unis à boucler le vaste échange de prisonniers avec Moscou. Cette décision difficile n'a pas été prise à la légère mais est juste, s'est défendu le chancelier Olaf Scholz devant la presse. Le président américain Joe Biden a publiquement exprimé sa grande reconnaissance envers Olaf Scholz pour, dit-il, les concessions importantes faites dans le cadre du compromis diplomatique. L'Iran et ses alliés disent préparer leur riposte contre Israël après l'assassinat du chef du Hamas et la mort du chef militaire du Hezbollah libanais. Davantage de détails avec Rosine Mounezero.
Israël ne sait pas quelle ligne rouge il a franchie, a lancé jeudi le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, en référence à l'attaque qui a tué mardi près de Beyrouth le chef militaire du mouvement islamiste libanais, Fouad Choukri, et à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas. Israël doit s'attendre à une riposte inéluctable du Hezbollah, a affirmé Hassan Nasrallah dans un discours télévisé prononcé lors des funérailles de Fouad Choukri. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi qu'Israël est à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. La dépouille d'Ismaël Haniyeh est arrivée au Qatar, où il vivait en exil. Il doit être enterré aujourd'hui vendredi. L'armée israélienne a en outre annoncé jeudi la mort du chef militaire du Hamas, Mohamed Deif, dans un raid aérien le 13 juillet dans la bande de Gaza. Le Hamas avait affirmé après le raid qu'il était en vie. Face aux craintes d'un embrasement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé toutes les parties à la désescalade.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons à présent aux nouvelles du sport. Eric Manirakiza nous rapporte les résultats et les faits marquants aux Jeux Olympiques de Paris, notamment de l'athlétisme qui entre en scène au Stade de France ce vendredi matin et les athlètes africains très attendus.
Après la marche hier jeudi en plein cœur de Paris, l'athlétisme prend ses quartiers au Stade de France à partir de ce vendredi matin. Les reines du sprint, l'américaine Shakari Richardson et la jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Pryce feront leur entrée en compétition avec les séries du 100 mètres. La seule médaille d'or de cette première journée sur la piste des violettes sera attribuée pour le 10 000 mètres hommes. Les Africains excellent traditionnellement dans les épreuves d'athlétisme où ils se distinguent régulièrement. Mustapha Beraf, président des comités nationaux olympiques d'Afrique, anticipe que le continent africain remportera encore plus de médailles qu'aux Jeux olympiques précédents à Tokyo.
Il y a également de très bonnes prestations, de très belles performances. L'équipe de football d'Égypte qui bat l'Espagne, l'équipe du Sud-Soudan, basket qui bat Porto Rico, et ce n'est pas rien, l'équipe du Nigeria qui bat l'Australie, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande amélioration par rapport aux éditions précédentes. Et je crois que nous sommes en train de développer une synergie qui va permettre aux Africains, à leurs athlètes, d'obtenir les résultats nécessaires.
Mustapha Beraf souligne plusieurs indicateurs encourageants pour justifier son optimisme.
On arrive avec l'athlétisme, nous sommes très optimistes, avec dans le demi-fond, dans les demi-fonds, le marathon, etc. Quelques épreuves partent de l'élite africaine. Il y a le taekwondo qui arrive aussi, qui connaît de grands développements. Et il y a également, vous le savez, la boxe, où nous avons de très très bons pugilistes. Et je crois que les choses vont aller en s'améliorant. Dans la fin des compétitions, nous obtiendrons plus de médailles que celles que l'on a obtenues à Tokyo, où il y a eu 37 médailles, 11 médailles d'or. Je pense qu'on va dépasser ce nombre, largement.
Mustapha Beraf, président des comités nationaux olympiques d'Afrique. Il convient de noter que près de 1000 athlètes africains participent aux Jeux olympiques de Paris. Natation, le nageur français Léon Marchand, devenu la figure emblématique de la première semaine des Jeux, vise une quatrième médaille d'or devant son public ce vendredi. Gymnastique, deux jours après sa médaille d'or au concours général par équipe, la superstar américaine Simone Biles a été sacrée ce jeudi soir au concours général individuel de gymnastique artistique, décrochant sa deuxième médaille d'or aux Jeux de Paris 2024. Basket masculin, la Dream Team américaine, déjà qualifiée pour les quarts de finale, bénéficie d'un jour de repos ce vendredi. Deux rencontres s'annoncent particulièrement explosives, avec un risque d'élimination pour les perdants. Canada-Espagne dans le groupe A et Soudan du Sud-Serbie dans le groupe C. Enfin, le tournoi de football atteint sa phase décisive avec les quarts de finale. La France affrontera l'Argentine à Bordeaux dans un contexte tendu en raison de chants racistes proférés par la sélection argentine à l'encontre des Français. Les autres rencontres verront le Maroc jouer contre les États-Unis à Paris, le Japon défier l'Espagne à Lyon et l'Égypte se mesurer au Paraguay à Marseille.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il entrera en vigueur le 4 août prochain. Il a été obtenu sous la médiation de l'Angola. Venuste Nshimiyimana, correspondant de la VOA Kinyarwanda à Londres, a recueilli la réaction d'Olivier Jean-Patrick Ndungireye, ministre rwandais des Affaires étrangères.
La décision principale qu'on a prise à Luanda, c'est de s'accorder sur un cessez-le-feu entre les parties en conflit à l'est de la RDC à partir de dimanche 4 août à minuit, heure locale. Les trois pays signataires se sont engagés à superviser la mise en application de cet accord par le mécanisme ad hoc de vérification qui est dirigé par BLAP, mais qui sera renforcé par des experts en renseignement des trois pays. Ces experts, d'ailleurs, vont se réunir bientôt, non seulement pour évaluer la mise en application de cessez-le-feu, mais aussi pour parler d'autres sujets qui sont points d'achoppement entre les deux pays, y compris, bien sûr, la question des FDLR.
Mais alors, quels sont les chances de survie de cet accord, un accord qui a été signé et sans la présence de l'un des belligérants principaux, notamment le M23.
La réunion de Luanda est une réunion entre les États, entre les trois États. Ce n'est pas une réunion entre parties belligérantes. Donc ce qu'on fait, comme je l'ai dit, c'est de garantir qu'il y ait un cessez-le-feu, et qu'on y mette les moyens, notamment à partir de ce mécanisme ad hoc. Pour le M23, et d'ailleurs pour tous les autres groupes armés, il y a un autre processus, qui est le processus de Nairobi, qui est sous l'égide de la communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community, piloté actuellement par l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta. Et c'est ce processus qui contient deux volets. Il y a un volet politique, donc le dialogue entre le gouvernement congolais et les partis et les groupes armés à l'est de la RDC, mais aussi un volet militaire où il y avait une force régionale de l'East African Community qui avait d'ailleurs pu imposer un cessez-le-feu pendant 6 mois, de mars à septembre, avec le retrait des M23 de plus de 80% de son territoire, mais malheureusement qui a été expulsé par le président congolais parce qu'il estimait que cette force n'était pas assez offensive.
Et en quoi les pourparlers en cours entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pourraient mener à une paix durable dans la région?
Justement, le processus de Luanda n'a pas l'ambition de résoudre tous les problèmes de la RDC. Ce processus a l'ambition de régler les problèmes qui concernent principalement les deux pays. Par exemple, j'ai parlé de la question des FDLR, mais le Rwanda est affecté directement par ce conflit.
C'était Olivier Jean-Patrick Ndungireye, chef de la diplomatie rwandaise.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Guinée, les avocats de Moussa Dadis Camara, condamné hier à 20 ans de prison, ont annoncé ce matin faire appel. À l'annonce de la décision, l'ONG Amnesty International a salué un verdict historique. Claire Morin-Gibourg a joint le chercheur du bureau Afrique de l'Ouest d'Amnesty International, Fabien Hoffner.
Oui, évidemment, c'est un verdict historique et on voit les réactions des uns et des autres, à part évidemment la défense et les avocats de la défense. Tout le monde félicite ce verdict, que ce soit les organisations de défense des droits humains de façon générale comme Amnesty International, les organisations qui étaient parties civiles comme la Fédération internationale des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et la VIPA, mais également la Cour pénale internationale. Donc c'est un succès pour tout le monde. D'une part, c'est historique pour la Guinée, puisque les victimes attendaient depuis 2009, donc depuis 13 ans, que justice soit rendue, et la justice a finalement été rendue. Également en Guinée, où depuis 1958, les régimes autoritaires qui se sont succédés se sont rendus responsables de multiples violations très graves des droits humains, et pour une fois, l'une de ces violations extrêmement graves a été jugée. Et puis c'est également encourageant par rapport à ce qui ressort de la coopération entre la Cour pénale internationale et les pays, et notamment les pays africains, puisque pour la première fois après une enquête initiale de la CPI, eh bien un pays a pris à bras-le-corps c'est ce pourquoi les violations étaient commises, et à enquêter et juger, aller jusqu'au bout du processus.
Alors justement, est-ce que ce procès peut servir de modèle pour de futurs procès africains ?
Il faut l'espérer. Ce qu'on a constaté, c'est que au-delà de la Guinée, même en Afrique de l'Ouest, ça a été un procès qui a été assez populaire. On a vu des extraits qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, sur TikTok, par des gens de tous les âges. Et le fait que ce procès soit diffusé en direct par les médias guinéens a, je pense, beaucoup aidé à démocratiser un petit peu ce procès et le fonctionnement de la justice. Ça a été, selon les dires des personnes qui ont participé, un succès quand même assez notable, avec un procès qui a été bien mené, en dépit du fait qu'il a eu quand même de graves problèmes extérieurs, notamment le fait que plusieurs prisonniers se soient évadés à un moment donné avant que certains soient repris. Donc c'est évidemment un exemple, notamment en ce moment en Afrique de l'Ouest, où de nombreux crimes continuent d'être commis, en Guinée, mais pas seulement en Guinée, et c'est suffisamment rare pour se dire que ça puisse servir d'exemple et d'avertissement pour la suite.
C'était Fabien Hoffner, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ici, aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump et la probable candidate démocrate Kamala Harris sont tous deux en campagne. Trump a mis en doute l'identité raciale de sa rivale et cette dernière lui a lancé un défi, celui de l'affronter dans un débat. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, notre collègue Scott Stearns examine l'état de la course et ce que les électeurs disent des candidats. Le récit avec Chérubin Dorsila.
Le candidat républicain Donald Trump a déclaré à ses partisans dans l'état-clé de Pennsylvanie que son probable adversaire démocrate est un imposteur.
Les patrons du Parti démocrate de la gauche radicale ont mis en place une candidate fantoche qui ne se battra que pour eux. Kamala Harris n'a obtenu aucune voix. Elle est totalement scénarisée et contrôlée par les donateurs et les courtiers du pouvoir qui ont créé sa campagne et qui arnaquent notre gouvernement et gagnent des milliards et des milliards de dollars.
Plus tôt dans la journée de mercredi, Donald Trump a eu une rencontre controversée avec des journalistes noirs, au cours de laquelle il a remis en question l'identité raciale de Mme Harris, dont la mère est indienne et le père noir.
Elle a toujours été d'origine indienne. Elle n'a fait que promouvoir l'origine indienne. Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à ce qu'elle le devienne il y a quelques années. Et maintenant, elle veut être connue comme noire. Je ne sais donc pas si elle est indienne ou noire. Est-elle indienne ou noire ?
Kamala Harris s'identifie depuis longtemps comme étant à la fois noire et sud-asiatique. Depuis qu'elle est devenue la probable candidate démocrate à l'élection présidentielle, elle a fait jeu égal avec Trump dans 7 états clés, selon les sondages de Bloomberg News et Morning Consult, en grande partie grâce au soutien plus important des jeunes électeurs, des Noirs et des Hispaniques. Pour elle, cette campagne a pris un nouveau tournant.
La dynamique de cette course est en train de changer et il y a des signes qui montrent que Donald Trump le ressent. Vous l'avez peut-être remarqué.
Madame Harris a déclaré lors d'un rassemblement mardi en Géorgie que Donald Trump semble avoir beaucoup de choses à dire à son sujet, mais qu'il ne veut pas participer à un débat en septembre comme prévu.
Eh bien, Donald, j'espère que vous allez décider de me rencontrer dans ce débat, parce que, comme le dit le proverbe, si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi en face.
Kamala Harris devrait annoncer son colistier dans les prochains jours et il lui reste la convention du parti à Chicago pour convaincre les électeurs qu'elle est un meilleur choix que Donald Trump. En Caroline du Nord, l'électrice Wanda Cherry se dit enthousiaste à l'idée que le parti démocrate passe du président Joe Biden à Kamala Harris.
Je suis contente que le président ait réalisé que nous avons besoin de quelqu'un de plus jeune pour diriger le pays, quelqu'un qui a l'intelligence et la volonté de se présenter.
T. Stanley, électeur de Géorgie, ne pense pas que Mme Harris soit prête à devenir présidente.
D'abord, le fait qu'elle soit candidate, c'est vraiment horrible selon moi, parce que tout d'abord, elle n'est pas préparée pour ce poste, et il semble qu'elle soit déjà présidente maintenant.
En Californie, l'électrice Marina George affirme que le soutien de Trump est suffisamment fort pour vaincre n'importe quel adversaire.
Même avec l'entrée de Kamala Harris ou de n'importe qui d'autre, ils ne vont pas gagner. Cela ne fait qu'accentuer l'éclatement du Parti démocrate. Et tout ce qu'ils font est bon pour les républicains.
Au niveau national, le sondage Bloomberg montre que Harris et Trump sont au coude à coude à moins de 100 jours de l'élection.
L'intelligence artificielle intègre le secteur de la construction. Dans un projet de construction de plusieurs étages à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, des robots autonomes sont chargés de documenter l'avancement des travaux et de détecter les risques potentiels. C'est un reportage de Natacha Mozgovaya. Le récit est de Dini Niwa.
Lorsque l'équipe de construction de cet immeuble d'habitation de Seattle, dans l'État de Washington, termine sa journée, deux robots autonomes dotés d'une intelligence artificielle se mettent au travail.
Stewart Germain, directeur de l'innovation chez Sanska.
Le robot se rend donc dans chaque pièce de l'étage. Les plans sont déjà chargés dans le robot qui sait donc où se trouvent les murs. Il se déplace dans chaque espace et prend une photo haute résolution à 360 degrés. Il passe en revue tout l'étage et télécharge ensuite ses photos sur sa plateforme dans le cloud où il effectue un certain nombre d'analyses basées sur l'AI qui sont ensuite communiquées à l'équipe du projet.
Lorsque les robots ont été présentés au personnel il y a 3 mois dans le cadre d'un projet pilote mené en collaboration par l'entreprise de construction Skanska et la société Nextera Robotics basée à Boston, certains étaient sceptiques.
Gareth Metz, ingénieur principal chez Skanska.
Au départ, je n'étais pas sûr qu'ils seraient capables de naviguer seuls dans le projet. Je n'ai jamais vu de robot capable de manœuvrer de manière autonome sur un chantier en constante évolution. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des gens qui entrent et sortent, mais ces machines font un très bon travail dans ce domaine.
Les images capturées par ces robots passent par un modèle d'intelligence artificielle formé pour reconnaître des milliers d'objets liés à la construction, afin que les ingénieurs sur le site et les concepteurs de l'autre côté puissent surveiller l'avancement de la construction et identifier les dangers potentiels.
Jacob Ryers, directeur des opérations de Nextera Robotics.
Il s'agit de les analyser et de se demander ce que l'on voit ici. Les murs sont-ils peints ou s'agit-il de cloisons sèches? Les plafonds sont-ils une ossature? S'agit-il de béton peint? Le conduit d'air est-il installé? Le conduit d'air est-il isolé? Il s'agit de rechercher tous ces éléments, de les traiter sur notre plateforme en ligne et de les présenter de manière très digeste.
Les visages des travailleurs sont floutés sur les images capturées par les robots afin de protéger leur vie privée. Les responsables du projet insistent sur le fait que les robots sont là pour aider les gens à accomplir des tâches fastidieuses ou dangereuses et non pour prendre leur travail.
Jacob Ryers, directeur des opérations de Nextera Robotics.
Pouvoir suivre la progression de tous les corps de métier sur une tour résidentielle de 31 étages et de 324 logements comme celle de Seattle, c'est quelque chose qui prendrait énormément de temps et qui serait très très difficile à faire pour un humain.
Malgré les avantages de la technologie, les entreprises de construction ont été lentes à adapter les outils d'IA. Selon M. German, l'adoption plus large de l'IA pour l'optimisation des processus, les informations en temps réel et l'évaluation des risques dans la construction n'est qu'une question de temps.
C'est ainsi que se termine Le Monde aujourd'hui. Au micro, Nanit Salani, à la mise en onde, Fatou Alimassi Kalala, à la technique, Kelvin Fowler. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Restez avec nous pour des reportages et des analyses approfondies tout au long de la journée. Pour plus de détails et de nouvelles en continu, visitez notre site web à voafrique.com. Passez une excellente journée et restez informés avec VOA Afrique.